La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui, puisque nous commençons cette nouvelle semaine, nous ramènera tout à l'heure à la séquence Ma Parole qui elle-même nous emmènera au Brésil où la danse des mots d'ailleurs va s'installer pour quelques jours. On retrouvera le Brésil à la fin de la semaine. Mais auparavant, j'aimerais qu'on s'intéresse à un bel objet que je ne sais pas trop comment nommer, mais ça va être l'une de mes questions. Est-ce que c'est un roman illustré? Est-ce que c'est un texte graphique, un roman graphique? En tout cas, ce beau livre, il est publié aux éditions POL. Il est de Lamia Ziadé et il s'appelle « Ma très grande mélancolie arabe ». C'est sous-titré « Un siècle au Proche-Orient ». Bonjour Lamia Ziadé.
Bonjour.
Merci bien de venir nous parler de votre très grande mélancolie arabe. Alors on voit bien dès le titre que vous mettez en scène d'une certaine façon, il y a ce pronom personnel, ma très grande mélancolie. C'est donc à la fois personnel et très intime, puisque le mot mélancolie forcément fait appel à une certaine intimité. Et ce pronom il va changer puisque dès le début du texte, vous dites... L'Opel Astra file en direction du sud, le sud Liban, terre des martyrs de ruines et de passions. À bord, tu es le seul passager. Donc c'est quelqu'un qui s'adresse à vous et vous prenez en charge ce récit. Est-ce que c'est vraiment un récit? Est-ce que ce sont des souvenirs? Puisque vous évoquez de façon extrêmement d'ailleurs engagée et partisane un certain nombre de personnages pendant ce dernier siècle au Moyen-Orient. Comment est-ce que vous qualifieriez justement votre travail? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un travail d'historienne. C'est pas non plus un travail de souvenirs personnels. C'est un travail par rapport aux images qui sont véhiculées par l'histoire du Moyen-Orient.
C'est un peu un mélange des deux. Ce n'est pas du tout personnel, sauf que c'est ma vision des choses.
Oui.
Les événements que je relate sont des événements historiques, mais effectivement, je ne suis pas du tout historienne, donc leur choix est complètement personnel et aléatoire.
Et la façon dont vous les présentez aussi,
oui,
parce que je dis que c'est
oui,
très c'est, partisan.
Oui,
et,
oui c'est
et
ma
c'est
façon
vrai.
De voir ces événements-là.
C'est pas l'histoire.
Moi, le mot récit illustré me convient beaucoup mieux que roman graphique. D'abord parce que c'est pas de la fiction.
Oui, et puis c'est pas un roman, voilà, en effet. Oui.
C'est pas un roman. Et le roman graphique est très, c'est assez codé, c'est un peu, ça vient de la BD avec plus ou moins des cases, plus ou moins noir et blanc, etc. Évidemment, il y a des exceptions. Mais là, c'est vraiment une grande illustration par page, donc j'aime bien en plus ce mot un peu vieux de illustré, qui, je pense, s'adapte bien à ce livre-là, qui est assez, c'est pas rétro, mais un peu nostalgique aussi, même si ce qu'il raconte est plutôt violent et pas glamour comme mon précédent livre qui était sur des chanteuses arabes, donc beaucoup plus nostalgique.
Alors en effet, c'est très différent de votre précédent livre qui s'appelait « Aux nuits, aux mes yeux », mais en même temps, la forme est un petit peu la même.
La forme est la même.
C'est-à-dire que le rapport entre le texte et, je veux dire, l'illustration, puisque c'est le mot que vous employez vous-même, le rapport est le même. Est-ce que vous pourriez nous décrire justement, pour quelqu'un qui n'a pas ce livre en face des yeux, comment est-ce que vous pourriez
en parler? Une grande illustration en couleur faite à la gouache, donc c'est vraiment de la peinture, pas du dessin, par page. Et le texte est séparé de l'illustration. C'est ou des pages entières de texte ou des bas de page avec une 5-6 lignes. Et en dessous de chaque dessin, à peu près chaque dessin, il y a une légende qui est un peu comme si elle était tirée du texte, un peu comme dans les bibliothèques vertes. D'ailleurs, c'est de là que très directement, je me suis inspirée. Comme dans Alice ou les Sœurs Parker, où il y a une petite phrase de 4-5 mots, mais hyper accrocheuse. C'était un peu le but, un peu Paris Match. C'était déjà quelque chose que j'avais fait qui fonctionnait très bien, évidemment, pour le monde du show business de Aux nuits, aux mes yeux, mais que j'ai repris ici et qui marche, enfin, à mon avis, très bien aussi, parce que c'est une manière d'accrocher et après qui permet de rentrer dans le texte, qui est par contre un texte beaucoup plus long et détaillé.
Alors c'est en effet un texte linéaire, un texte qui se suit, même si ça procède par article, d'une certaine façon. Ce ne sont pas des chapitres, ce sont des articles qui sont destinés à illustrer tel ou tel personnage, tel ou tel pan de l'histoire du Moyen-Orient. À votre avis, quelle stratégie de lecture est-ce que vous pourriez suggérer? Vous, alors c'est un petit peu différent puisque c'est votre livre, mais quand même, quand vous le lisez comment? Où va votre œil? Où est-ce qu'il s'arrête?
Alors c'est marrant parce que beaucoup de gens m'ont demandé, mais je peux prendre un chapitre par-ci, par-là, et moi, je évidemment c'est possible, mais je pense que c'est vraiment quand même très linéaire parce qu'on retrouve des personnages dont j'ai parlé au premier chapitre, mais 20 chapitres plus loin, alors qu'on les a abandonnés, etc.
Donc vous regretteriez justement qu'on aille picorer dans votre livre. Vous préférez que pour la première lecture, on le prenne au début.
Alors il y a deux lectures parce qu'il y a les dessins. Et les dessins, ça, on peut les regarder indéfiniment sans même rien lire.
Comme c'est très illustré, c'est vrai que ça appel au feuilletage.
Oui,
on
voilà,
a envie, avant même de se plonger dans le livre, de regarder la page 300, la page 120, la page 10, en disant « Oh, c'est joli, c'est pas mal ». On lit pas grand-chose, on regarde.
Oui, et puis on sait de quoi on va parler, par exemple, tout d'un coup, on va parler du roi d'Irak, etc. Mais le lecteur qui est au début au sud Liban, dans l'Opel Astra, en feuilletant le livre, il n'a même pas besoin de lire, il voit des images du roi d'Irak un peu avant la fin du livre, dans les années 40, quoi. Et donc, du coup, ça, les dessins font voyager d'une autre façon que le texte, et on peut alterner les deux. Ça, c'est sûr qu'ils sont tellement présents que c'est difficile de ne pas regarder ce qui se passe à la fin, au moins en dessin.
Alors, parlez-nous un petit peu des dessins, puisque vous y venez. Vous appelez ça des dessins. Il y en a qui sont des peintures.
Oui, des illustrations.
Ce sont des illustrations. Techniquement...
C'est de la gouache.
Alors, tout est de la gouache, parce que... C'est...
Uniquement de la gouache, oui. Et dans ce livre-là, uniquement d'après photos non trafiquées, disons, entre guillemets, parce que...
Qu'est-ce que c'est des photos non trafiquées?
Dans Nuit aux mes yeux, je prenais parfois 3 photos que je mettais dans un seul dessin.
Donc je refaisais un montage. Il y avait quelque chose d'un peu composite.
Voilà.
Vous essayez de superposer des photos, comme si on pouvait voir en transparence les détails de l'une de l'autre.
C'est-à-dire, je prenais une photo d'Asmahan, une photo de l'hôtel King David à Jérusalem et une photo d'officier britannique, et je les mettais les 3 dans une illustration, puisque la photo n'existait pas de cette scène-là. Et là, je n'ai pas du tout fait ça, c'est-à-dire que j'ai pris des photos telles quelles et que j'ai reproduites telles qu'elles sont exactement. Il y a 3 types de photos, soit des photos d'archives, par exemple le roi d'Irak, le roi du Maroc, ou des affiches de fédaïnes ou de martyrs dans les années 70 à Beyrouth, etc. Donc ça, c'est de l'archive pure.
C'est vous qui employez ce mot de martyr, qui revient souvent dans votre livre.
Oui, alors ça, on peut en parler, mais au Moyen-Orient, il n'a pas le même sens.
Oui, mais le livre est quand même en français.
Oui.
Donc c'est vrai qu'en français, il a un sens particulier. C'est pour ça que je disais que c'était pas de l'histoire, c'est du témoignage et du témoignage engagé. Mais revenons à ce rapport à la photo. Chaque fois, vous avez trouvé une seule photo, une photo d'archives, une photo de presse, souvent.
Alors, donc, soit des photos d'archives, soit des photos que j'ai fait arrêt sur image dans des films documentaires ou autres. Mmh. Donc, c'est aussi de l'archive, mais que j'ai sélectionné un peu. Ou alors, c'est des photos que j'ai prises moi-même. Pendant mes recherches et des photos des gens que j'ai rencontrés ou des lieux où je suis allée, comme par exemple le camp de Shatila à Beyrouth ou tel cimetière au sud Liban, etc. Ça, c'est des photos que j'ai prises moi et que après j'ai illustrées.
Est-ce que ça change quand justement vous travaillez à partir de photos que vous avez prises vous-même ou à partir de photos que vous avez découvertes ici ou là?
Techniquement, non, parce que c'est un peu le même style de dessin.
Mais votre façon de peindre...
Oui, je pense que c'est... important pour le côté personnel du livre. Ce n'est pas que un livre d'histoire, que ça n'est pas d'ailleurs, on l'a dit dès le début, mais ça apporte le côté personnel et un peu inédit, parce que c'est ce cimetière, il y a très très peu de gens qui y sont allés, en tout cas très peu de gens qui vont avoir ce livre entre les mains sont allés dans ce cimetière, donc on ne trouve pas des photos de ce cimetière sur internet, etc., ou les photos que j'ai prises de telle famille à Shatila non plus, ou dans le souk de Tyr, telle poissonnerie, etc.
Alors, il y a quelque chose d'important aussi, quand on regarde vos photos, la Miaziadeh, quand on regarde vos illustrations plutôt, certaines sont en couleur, d'autres en noir et blanc. Est-ce que ça rend compte De la photo d'origine ou est-ce que c'est différent?
Oui, en général, les photos en noir et blanc, je les ai reproduites en noir et blanc.
Et donc, ça donne une idée de la peinture tout à fait particulière. Vous peignez en noir et blanc.
Oui, enfin, c'est du noir et blanc un peu teinté quand même.
Oui, oui, bien sûr. Mais oui. On sent qu'il y a une logique de noir et blanc, hein, ou de sépia un peu.
Oui, voilà. Oui, c'était d'ailleurs le cas aussi dans le livre sur le cinéma égyptien, puisque tous les films égyptiens, pratiquement de l'âge d'or, sont en noir et blanc. Et je dois avouer que j'adore peindre en noir et blanc. J'aime beaucoup les dessins qui sont en noir et blanc, particulièrement.
C'est Yasmine Abdan qu'on vient d'entendre dans la danse des mots, à propos donc de « Ma très grande mélancolie arabe », ce livre qui est sorti aux éditions POL et qui est signé, écrit, illustré par Lamia Ziadeh. Alors, Lamia Ziadeh, comment vous l'avez composé ce livre? C'est-à-dire, quelle a été la chronologie entre le dessin et le texte? Est-ce que chaque dessin suscitait un texte? Est-ce que vous écriviez des textes en vous disant « après, je vais les illustrer » Comment vous avez jonglé entre ces deux pratiques, puisque vous êtes à la fois peintre et écrivaine?
Alors, c'est l'anarchie la plus totale, parce qu'il y a l'écriture, le dessin, il y a les recherches aussi, parce que c'est quand même très, très documenté. Et j'ai mené les trois de front jusqu'à la dernière semaine de travail sur le livre. J'avais encore des recherches à faire pour clarifier tel point, etc. J'ai écrit le texte et fait les dessins vraiment en même temps. Au fur et à mesure que j'avançais dans le livre, ça m'emmenait à faire des digressions où je rajoutais un chapitre, donc j'écrivais un nouveau texte, je faisais de nouveaux dessins. Et souvent, les dessins m'amènent à parler d'un sujet dont j'avais pas forcément l'intention de parler, puisque c'est visuellement que j'ai envie de parler.
Ah oui, ça suscite un texte.
Oui, les dessins viennent souvent avant les textes. Mmh. C'était déjà le cas dans mes autres livres. C'est très très visuel, et si j'ai envie de dessiner tel objet ou tel lieu, je trouve le moyen d'intégrer un passage écrit, enfin un récit qui
Est-ce que l'image joue sur le mot? Est-ce que de temps en temps, le fait que vous sachiez que tel texte va venir en miroir de tel dessin, de tel gouache, etc., est-ce que ça influence le texte?
Beaucoup,
est-ce que le
oui.
style du dessin va donner une certaine silhouette à ce que vous allez écrire?
Beaucoup, oui. C'est vraiment composé. C'est-à-dire que je pense à la maquette en même temps. Je sais quel dessin va se retrouver en fait face de quel texte. Et souvent, j'enlève une ligne ou une phrase du texte en me disant qu'elle se trouve dans le dessin. C'est-à-dire que je n'écris pas ce que j'ai dessiné. Ça se complète vraiment, et du coup, c'est tout le temps l'un est influencé par l'autre, et le dessin influence le texte autant que l'inverse.
Il vous est déjà arrivé d'écrire sans dessiner, justement, d'écrire des textes ou de les faire publier?
Non.
Sans qu'il y ait des dessins?
Non, pas du tout. Non, je ne me considère pas du tout comme écrivain.
Alors, vous vous considérez vous qualifieriez justement ce travail? Est-ce que vous êtes peintre et que, d'une certaine façon, vous vous aidez parce que parce que les légendes, et un peu plus que les légendes de vos peintures, prennent de la place, ou bien est-ce que vous avez vraiment une double activité avec deux poids égaux?
Normalement, je fais des expos, je suis, disons, entre guillemets, artiste, un mot complètement vague, mais...
Oui, mais artiste peut peintre, s'appliquer aussi bien à l'écrivain qu'au peintre.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est vague, mais... Donc, à part ces trois livres-là, je n'ai rien écrit que pour le texte. C'est pour ça. C'est vraiment mon. Sans les dessins, je suis pas sûre que ça tiendrait le coup.
Et je vous poserai.
On verra pour l'avenir. Mais
oui,
c'est
mais
pas...
je vous poserai volontiers la question inverse. Est-ce que de temps en temps, le fait que vous sachiez qu'il y aura un texte, ça influe sur votre façon de peindre et que vous peignez? Sachant qu'il y aura une légende, sachant qu'il y aura une explication, que telle chose sera peut-être détaillée, explicitée dans le texte qu'il y a juste en dessous,
oui,
juste à côté.
Oui, ça c'est sûr, mais je pense que les dessins presque dans ce livre-là se suffisent à eux-mêmes, surtout que souvent c'est des dessins d'après des photos d'archives qui sont connues dans le monde entier, à part dans le
pas toutes.
Non,
alors, certaines sont connues, certaines on se dit oui, je les ai
donc,
déjà vues 10 fois.
Ça évoque déjà beaucoup de choses en soi, mais le texte est bourré d'anecdotes, de petites histoires, de récits. C'est très haut en couleur, donc c'est vrai que c'est important pour.
Et alors ces anecdotes, vous les tenez d'où? Elles aussi, elles sont suscitées par les dessins, ou bien vous en aviez l'idée au départ?
J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai rencontré beaucoup de gens, d'acteurs, ou des hommes politiques, ou des historiens, ou des journalistes, au Caire et à Beyrouth, et donc beaucoup d'histoires me viennent de là, parce qu'il n'y a pas énormément de choses écrites ou de films sur les sujets que j'ai abordés, donc je tiens à la source, les anecdotes à la source.
Alors donc, dans Ma très grande mélancolie arabe, on revient sur cette histoire du Moyen-Orient. Vous avez rencontré beaucoup de gens, de temps en temps vous leur donnez la parole, c'est-à-dire qu'on voit qu'on passe à une typographie en italique, que ce n'est plus vous qui parlez, ou en tout cas que vous vous rappelez des conversations. Là aussi, vous l'avez fait de façon très scrupuleuse, comme si vous aviez photographié les conversations. C'est des conversations que vous vous rappeliez, sur lesquelles vous avez pris des notes, que vous avez enregistrées au magnétophone?
Non, je n'ai ni pris des notes, ni enregistré au magnétophone, et évidemment, je ne me souviens pas le mot à mot, mais j'ai retranscrit vraiment le sens de la conversation. J'imagine que vous pensez à l'Irakien rencontré dans un
exactement,
bar. L'Irakien
en particulier,
qui ressemble à Omar Sharif.
Oui.
Rencontré dans un bar, etc.
Alors on voit bien
c'est
qu'il ressemble
tirade.
Beaucoup à Omar Sharif d'après les dessins que vous en donnez.
Oui,
puisque
j'ai
vu le dessin avant de lire le texte et j'ai pensé que c'était Omar Sharif.
Omar Sharif dans les années 70. alors lui, c'est une tirade dans le livre et évidemment que la conversation au moment même n'était pas une tirade mais une conversation à deux personnes. Donc voilà, c'est... J'ai condensé toute la conversation en une tirade que fait cet homme dans le... Livre.
Eh bien, merci beaucoup, Lamia Ziadeh, de nous avoir parlé de votre très grande mélancolie arabe et de ce siècle au Proche-Orient, donc qui est paru chez POL. Et dans La Danse des mots, il est temps maintenant de partir au Brésil et de retrouver notre séquence Ma Parole.
Ma parole, ça t'apprendra.
Bonjour Mathieu Bernard.
Oui, bonjour Yvan Mar.
Donc vous êtes directeur de l'Alliance française de Brasilia, qui est une ville très importante du Brésil, dont on parle peut-être moins que des villes numériquement, géographiquement plus grandes comme Rio, comme São Paulo, mais il n'en est pas moins vrai que Brasilia, c'est la capitale. Et à Brasilia, il y a une Alliance française. Alors dites-nous un petit peu à quoi elle ressemble. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent apprendre le français à l'Alliance?
Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Alliance. Comme vous le dites, c'est une ville singulière, c'est une capitale, mais c'est un petit peu la province quand même, Brasilia. Mais c'est en termes d'apprenants la troisième plus importante au Brésil, après Rio et São Paulo. Et on accueille plus de 1700 étudiants chaque année dans nos locaux, des jeunes, des adolescents, des adultes. Donc le français se porte plutôt bien à Brasilia.
Et comment vous expliquez cet intérêt tout particulier pour la langue française à Brasilia? C'est parce que c'est une ville administrative où il y a quand même beaucoup d'organes du pouvoir qui sont concentrés, parce qu'on a besoin d'être plus polyglotte qu'ailleurs?
C'est le cas, tout à fait. Hein. Il y a une exigence, je dirais, au niveau de tout le corps de hauts fonctionnaires brésiliens de maîtriser le français, hein, qui fait partie des langues obligatoires. Et d'ailleurs, je suis régulièrement impressionné par le niveau de maîtrise des interlocuteurs brésiliens qui parlent parfaitement français. Donc, c'est une réalité d'une capitale où le français a encore sa place. Et puis, je dirais qu'il vit à Brasilia une population essentiellement composée de fonctionnaires qui a des disponibilités de temps, d'organisation personnelle pour, outre leur travail, étudier, et notamment le français. Donc c'est pour ça que l'Alliance, je dirais, depuis la naissance de Brasilia, parce que l'Alliance est née en même temps que Brasilia au début des années 60, l'Alliance prospère et traverse les époques ici.
Donc cette alliance, elle est à la fois jeune et vieille. Elle est jeune parce que les années 60, c'est pas si loin, et elle est vieille parce que elle est née en même temps que la ville même. Alors, parmi les élèves de l'Alliance française, ceux qui viennent chez vous pour apprendre le français, est-ce qu'il y a beaucoup de non-brésiliens, ou bien est-ce que la plupart sont brésiliens et veulent justement maîtriser cette langue française pour mieux se débrouiller dans leur travail, par exemple?
Oui, je dirais que la grande majorité, hein, est composée d'étudiants brésiliens. On a de ci de là des étudiants d'autres pays, hein, qui sont installés ici pour des longues durées ou pour des missions de 3-4 ans et qui profitent de leur séjour pour étudier le français, mais la très grande majorité de nos apprenants est de nationalité brésilienne.
Alors, on sait que l'Alliance française ne sert pas qu'à enseigner le français. On sait qu'il se passe un certain nombre de choses dans cette alliance. En particulier, en ce moment, il y a une session de formation des profs. On en reparlera dans la danse des mots jeudi et vendredi prochain. Mais d'un point de vue culturel, qu'est-ce que l'Alliance française offre aux gens qui peuvent la fréquenter dans les semaines, dans les mois qui viennent? Il y a une offre importante, Mathieu Bernard?
Oui, tout à fait. On est fin janvier et on travaille assidûment sur le mois de mars, qui est la semaine de la langue française. Et un cas singulier à Brasilia, c'est qu'on travaille conjointement avec 25 pays membres de l'OIF et à travers leur représentation diplomatique ici. Chaque année, on se réunit, on travaille conjointement pour créer une programmation intense d'activités, de spectacles vivants, de rencontres.
Alors, quelques exemples. Qu'est-ce qu'il y aura comme spectacle proposé par l'Alliance à l'occasion de cette semaine de la langue française en mars?
Alors, le 20 mars, nous allons accueillir Mathieu Bogart, par exemple, ici, qui va se produire dans une grande salle de spectacle de Brasilia, qui a une belle carrière, une belle trajectoire comme artiste en France, et puis au niveau de la francophonie, ça nous semblait faire sens. Il va tourner au Brésil et s'arrêter chez nous. On va également avoir une exposition d'illustration de l'auteur illustratrice Béatrice Tanaka, qui a vécu une grande partie de sa vie à Paris et dont les œuvres seront exposées ici dans la galerie de l'Alliance française. Une mostra de cinéma francophone aura également lieu durant une dizaine de jours dans une des d'un grand centre culturel de Brasilia.
Une mostra, c'est-à-dire voilà, un festival?
Alors, ça serait prétentieux de dire que c'est un festival, parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de jury en tant que tel, mais c'est plutôt une sélection.
Un festival sans prix, en effet. Un festival voilà, sans qu'il y ait une carotte au bout, quoi.
Exactement, voilà. Notre objectif est de montrer la diversité du cinéma en langue française.
Ouais. Et alors, on pourra voir des films en français ou uniquement des films français? Quel type de film est-ce que vous allez montrer?
Alors, ce sont des films français, des films belges, suisses, parfois des coproductions des pays africains. Tous les films sont en langue française et sous-titrés en portugais pour les rendre le plus accessibles possible aux spectateurs. Donc, La programmation n'est pas encore totalement bouclée, donc je m'aventurerais si je vous révélais dès à présent les films qui vont être présentés, mais à chaque fois on essaye voilà, d'avoir un éventail de films récents, souvent inédits, et difficilement accessibles en dehors de ce type de rendez-vous.
Et alors, qui est-ce qui vient à l'Alliance française pour assister à ces projections? Essentiellement des francophones ou bien des gens qui s'intéressent à la culture française, ou simplement des gens qui s'intéressent à la culture, qui ont envie d'aller au cinéma et qui saisissent l'occasion de venir?
Ah, c'est un public très varié, je dirais, effectivement. On a des étudiants de l'Alliance ou des étudiants de langue française des universités, par exemple, hein, qui sont en quête justement d'enrichissement et de rapprochement avec les expressions culturelles françaises ou francophones, mais aussi un public de cinéphiles, parfois qui ne maîtrise absolument pas le français et qui, je dirais, se tourne vers ces salles pour visionner des films qui n'ont pas forcément la possibilité de voir dans des multiplex ou dans des salles où l'offre est essentiellement composée de films plus commerciaux. Donc voilà, on croise les publics, c'est un peu notre objectif aussi d'être un lieu de rencontre et d'échange. Et ça fonctionne plutôt bien.
Ben merci beaucoup Mathieu Bernard pour tout ça. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Alliance française de Brasilia et que la danse des mots sera à Brasilia d'ici quelques jours. Donc rendez-vous jeudi et vendredi. Et merci encore d'avoir été dans cette danse des mots.
Merci à vous pour votre invitation.
Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure. Frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur. Puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie. Franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas?
Merci Brasilia donc, et nous retrouverons le Brésil dans quelques jours dans la danse des mots. Merci aussi à la Miaziadé qui venait présenter sa très grande mélancolie arabe dans la première partie de cette danse des mots proposée par le réseau Canopé et par RFI, Lucie Bouclou, Véronique Durand, Marjorie Bertin, Yvan Affin.
Enfin voir la vue, enfin voir dessus.